écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit, ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France. On va décortiquer ensemble pendant une demi-heure l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal, avec à la une le gouvernement français qui est et qui restera, du moins pour l'instant. La motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier a été rejetée à l'Assemblée nationale. Regain de tension en Martinique en marge de manifestation contre la vie chère, 4 gendarmes légèrement blessés par des tirs. Au sommaire également, le fils d'Oussama Ben Laden qui vivait en Normandie, désormais interdit de territoire français. Et puis le médicament contre l'obésité, Wegovy, est lancé en France. Sans remboursement, il est prescrit dans un cadre restreint et son utilisation est très encadrée.
RFI.
Le Premier ministre Michel Barnier et son gouvernement peuvent dormir tranquille. La motion de censure déposée par l'aile gauche de l'Assemblée nationale a été rejetée ce mardi. Le nouveau Front populaire qui n'obtient que 197 voix, très loin des 289 nécessaires. Le débat de cette motion préventive a donc confirmé ce que l'on savait déjà, Raphaël Delvolvé, à savoir que la gauche conteste la légitimité du gouvernement qui lui-même se sait sous la menace de l'extrême droite.
C'était un peu retour vers le passé dans l'hémicycle, comme tout au long de l'été, la gauche continue de revendiquer Matignon, le socialiste Olivier Faure du nouveau Front populaire.
Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est arrivé en tête. 2 mois plus tard, c'est un Premier ministre issu d'un parti laminé et un gouvernement issu d'un parti rejeté par 3 fois en 1 mois qui sont à la tête du pays.
Le premier secrétaire du PS ne manque évidemment pas de souligner le soutien tacite du RN à ce gouvernement fragile. Michel Barnier répond et se répète. Comme lors de sa déclaration de politique générale, il revendique une plus grande solidité que le NFP.
Il n'y a d'ailleurs pas dans cet hémicycle de majorité absolue, il n'y en a pour personne. Il y a donc simplement, M. Faure, des majorités relatives. Et parmi ces majorités relatives, la majorité relative qui accompagne le gouvernement est aujourd'hui la moins relative.
Dans les autres groupes, cette censure préventive ne convainc pas, notamment sur les bancs de l'extrême droite, Guillaume Bigot, ancien chroniqueur CNews et aujourd'hui élu du RN.
On ne censure pas car c'est inutile à ce stade. Nos déclarations ont plus de poids sur le gouvernement et plus d'effet pour défendre les Français que vos effets de manche et votre censure épouvantail.
Avec les 126 voix du RN, le NFP aurait renversé le gouvernement. Peut-être que ce mariage de circonstances se produira plus tard durant la session parlementaire. La gauche prévoit déjà de remettre ça si le budget est adopté par 49-3.
Autre dossier qui mobilise le gouvernement français, la situation au Proche-Orient, puisqu'une 50aine de personnes qui vivaient au Liban ont été rapatriées ce mardi sur le sol français par avion militaire. Les autorités qui dénoncent une provocation dans les propos du Premier ministre israélien ce mardi soir, Benjamin Netanyahu, qui menace le Liban de subir des destructions comme à Gaza. Écoutez la réaction du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il était l'invité de nos confrères de France 2.
Si cette provocation était suivie des faits, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France, déjà si fragile, dans le chaos. Et cela poserait pour Israël des problèmes de sécurité plus importants encore que ceux qui prévalaient avant les opérations militaires au Liban.
En Martinique, le mouvement contre la vie chère se poursuit. Depuis début septembre, la nuit dernière, des policiers et des manifestants ont été blessés lors d'affrontements en marge du mouvement contre la vie chère sur cette île des Caraïbes. Récit signé Pierre-Olivier.
Les affrontements ont eu lieu sur le carrefour Mao, dans la commune du Lamentin, entre Fort-de-France et l'aéroport. Une 50aine de manifestants et 7 poids lourds garés en travers des chaussées bloquaient la circulation. La CRS 8, spécialisée dans la gestion des manifestants, la manifestation violente est alors intervenue sous les jets de pierres et de bouteilles avant de riposter à son tour avec du gaz lacrymogène pour disperser la foule. 5 personnes ont été interpellées et 11 policiers blessés lors des affrontements. Le leader du mouvement de lutte contre la vie chère, Rodrigue Petitot, que les Martiniquais surnomment le R, a quant à lui été blessé à la cuisse en tentant d'enjamber un grillage. Ces derniers événements sont aussi révélateurs des tensions qui secouent l'île depuis plus d'un mois. Le mouvement contre la vie chère exige un alignement des prix des produits alimentaires sur ceux de l'Hexagone. En Martinique, ils sont en moyenne 40% plus chers, alors que le taux de chômage, lui, dépasse les 11%.
Pierre-Olivier, minuit et pratiquement 5 minutes ici à Paris et à Avignon, où le procès Pellicot se poursuit pour la 6e semaine. Gisèle Pellicot, cette femme droguée par son ex-mari Dominique Pellicot pendant 10 ans, il l'a violée et faite violer par des dizaines d'hommes. Il comparaît ainsi devant la justice avec 50 autres personnes. Hier, donc, plusieurs témoins ont été entendus permettant de mieux cerner la personnalité de Dominique Pellicot. Compte rendu d'audience avec Tanita Fallet.
Dominique était un grand manipulateur. Il a manipulé toute sa vie, son entourage, affirme Joël, son frère. Pendant près d'une heure, son témoignage plein de rancœur et celui d'un grand frère lassé par les mensonges du principal accusé qu'il compare à Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour évoquer sa double personnalité. Un discours marqué par quelques incohérences mais qui rejoint tout de même celui de deux hommes qui avaient été contactés par Dominique Pellicot comme à son habitude via le site Coco pour qu'ils aient des rapports avec son épouse. Le premier admet avoir eu l'impression d'être face à un homme qui avait deux personnalités. Le second dira qu'il était directif. C'est d'ailleurs le cœur de la défense des 50 co-accusés de Dominique Pellicot. La plupart affirment s'être fait avoir par son trait manipulateur. A-t-il une capacité à manipuler ? Demande l'un des avocats de la défense au mari de la fille des Pellicot. Et Pierre P. de répondre « Je n'ai pas ce sentiment, moi, il ne m'a jamais manipulé ». Un gendre qui n'avait rien vu venir, le ciel vous tombe sur la tête, explique celui-ci, pour qui Dominique Pellicot n'existe plus.
Il est désormais persona non grata sur le territoire français. Omar Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé sur le réseau social X avoir pris une interdiction administrative de territoire à son encontre. L'homme, Omar Ben Laden, installé en France depuis 2018, avait déjà quitté le pays après une mesure d'éloignement en 2023, mais il est beau courant.
Ce sont des propos sur les réseaux sociaux qui ont déclenché l'affaire l'année dernière. La préfecture de l'Orne, en Normandie, là où résidait légalement Omar Ben Laden depuis 2018, signale des contenus relevant de l'apologie du terrorisme et de la glorification d'Al-Qaïda, organisation terroriste fondée par Oussama Ben Laden, son père. Une enquête est ouverte, le principal intéressé nie être l'auteur des propos, mais l'administration française lui reproche en tout cas de ne pas les avoir supprimés ou condamnés. Considérant que sa présence pose un risque pour l'ordre public et la sécurité nationale, la préfecture décide en octobre 2023 de ne pas renouveler son titre de séjour et de le notifier d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 2 ans. Omar Ben Laden quitte la France de lui-même à la même période mais dépose un recours. La semaine dernière, le tribunal administratif confirme la décision de la préfecture. Son éloignement est donc maintenu et renforcé ce 8 octobre par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a prononcé une interdiction administrative de territoire, l'une des mesures d'éloignement qui est de son ressort. Légalement, Omar Ben Laden peut demander le retrait de cette interdiction après un délai d'1 an.
Amélie Beaucourt du Service France de RFI, on en vient à cette situation. Plusieurs casernes de gendarmerie du pays ne peuvent plus payer leur loyer aux communes qui les hébergent. Les 3 prochains loyers ne seront pas honorés car il a fallu faire des choix au détriment donc des municipalités. Explication de cette situation pour le moins inhabituel, avec Olivier Charman.
Les caisses de la gendarmerie nationale sont vides, du moins pour payer les loyers. Et le ministère de l'Intérieur invoque plusieurs raisons pour expliquer ces problèmes de trésorerie. D'abord, le paiement des dépenses liées à la sécurisation des Jeux Olympiques qui n'avaient pas été évaluées à leur juste niveau. Ensuite, une insuffisance initiale de crédit de l'ordre de 200 millions d'euros. Et enfin, les dépenses engagées en raison du conflit en Nouvelle-Calédonie. 3 raisons principales donc, et Beauvau a dû faire des choix en décidant de prioriser pour les semaines à venir, les dépenses liées à l'activité opérationnelle comme le carburant. Des communes se retrouvent à présent dans une situation financière problématique. Ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale et certaines mairies s'inquiètent de ne pas pouvoir boucler leur budget 2024. L'État aurait donc demandé à ses services d'identifier les communes les plus en difficulté pour les régler en priorité.
L'idée provoque la colère de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et de la mairie de Paris. La ministre de la Culture, Rachida Dati, demande le classement de l'édifice au titre des monuments historiques. Il s'agit là d'un sujet de discorde avec Anne Hidalgo. Et si ce classement est effectué, ce sera donc à l'État de gérer la Tour Eiffel et non plus à la mairie de Paris. Voilà une nouveauté dans les pharmacies françaises ce mardi. Un médicament, il s'appelle Wegovy. Il est présenté comme un produit vedette contre l'obésité. Alors pour prévenir le risque de dérive, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la ANSM et des produits de santé a mis en place des restrictions, Valérie Cohen.
Le Wegovy appartient à une nouvelle génération de médicaments. Il mime une hormone intestinale qui stimule la sécrétion d'insuline et influe sur la sensation de satiété. Commercialisé notamment aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, le Wegovy arrive donc dans les pharmacies françaises. Le traitement, au prix d'environ 300 euros par mois, ne peut être délivré que sur ordonnance et n'est pas remboursé par l'assurance maladie. L'Agence nationale de sécurité du médicament a fixé le cadre. Le Wegovy est réservé aux patients qui sont en obésité sévère ou massive, âgés de moins de 65 ans et chez qui la prise en charge habituelle a échoué. Le médicament doit être utilisé en association à un régime hypocalorique et à une activité physique. Par ailleurs, la première prescription ne peut être faite que par un médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie ou nutrition. Le gendarme du médicament veut éviter que le Wegovy soit détourné à des fins esthétiques et rappelle que ces mauvais usages peuvent entraîner des effets indésirables, parfois graves.
Valérie Cohen. Et puis un haut lieu du cabaret à la française va rouvrir ses portes à Paris, le cabaret chez Michou. 4 ans après la mort de son fondateur Michou, l'acteur et humoriste Gad Elmaleh va le racheter et en reprenant ce lieu iconique de Montmartre. Gad Elmaleh affirme en faire un lieu de comédie et d'humour tout en gardant l'âme des lieux sans pour autant reprendre la marque chez Michou.
heures en France. Stéphane Genest.
Et à minuit 11, ici à Paris, on revient dans cette seconde partie de 24 heures en France sur la démission fracassante du directeur de la prison de l'île de Mayotte. Ça s'est passé en début de semaine. Il dit vouloir attirer l'attention sur les conditions de travail et la surpopulation dans l'établissement. Une prison qui a fait la une de l'actualité il y a 2 semaines en raison d'une mutinerie qui s'y est déroulée, suivie par une prise d'otage de surveillants. Seul un d'entre eux a été légèrement blessé. On en parle avec le secrétaire général régional du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice, Alexandre Vissou-Vanadin. Il est surveillant justement dans cet établissement de Mayotte. Il répond aux questions d'Anne Cantner dans RFI Midi.
Qu'est-ce que vous pensez de cette démission ?
Ça a été quand même assez un choc hein, au niveau de la profession, au niveau de l'établissement. Les collègues n'ont pas vu venir hein, cette décision, mais elle a été révélatrice d'un mal-être et d'un gros malaise dans la prison Magicavo. Donc les agents, suite à la mutinerie, avaient quand même exercé un droit de retrait qui est interdit hein, dans notre statut hein, de surveillant pénitentiaire, mais quand même exercé 3 jours de retrait. Et là, maintenant, on a la démission du directeur, c'est que le signal, il est fort.
Mais c'est ça, vous nous avez parlé de la mutinerie. Donc, on va rappeler que c'était il y a une dizaine de jours, le 28 septembre, une mutinerie et une prise d'otage. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver à une telle situation ?
Tout à fait. Donc, c'est que derrière, on a un établissement très vieillissant, on a des conditions de détention exécrables, vous avez des cellules prévues pour un voire 2 détenus, maintenant ils sont assis dedans, on a 260% de taux de surpopulation pénale, donc l'un dans l'autre, plus de télé, au moment quand vous avez un établissement équipé pour servir des plateaux repas pour 278 détenus, c'est pas fait pour 700 détenus, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'était à bout de souffle. L'établissement est très vieillissant, invite à s'accélérer. Tous ces éléments, tous ces facteurs ajoutés arrivent à l'embrasement et à la mutinerie.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le personnel de la prison au quotidien ?
Ça crée tout de suite des tensions. Quand le matin, le surveillant doit ouvrir la porte de cellule, que par exemple, la nuit, c'est mal passé, il y a une mésentente entre les détenus. Tout de suite, les détenus vont rejeter leur mal-être et leur violence sur le personnel en uniforme. Tout ça, ça crée de la tension. Après, il faut savoir que Mayotte, là, il y a un gros phénomène de bandes rivales, de bandes entre villages. Et à partir du moment où l'établissement est surpeuplé, on ne peut plus séparer les gens. On appelle ça des interdictions de communiquer. Donc tout de suite, on arrive tout de suite à des affrontements. On ne peut plus les séparer. Et malheureusement, le personnel, tous les jours, doit braver un peu et un peu esquiver tous ces dommages collatéraux. Mais malheureusement, il sera pris dedans. Je pense que voilà, comme une prise d'otage et tout, on n'a toujours pas hein, la réelle motivation de cette mutinerie. Les revendications n'étaient pas claires. Mais voilà, on sait que de toute façon, c'était en sommeil depuis un moment. Alors qu'on a toujours averti, c'est une vraie cocotte minute, on le voyait venir et tout le monde ferme les yeux malheureusement sur la situation du centre pénitentiaire de Magicavo.
Est-ce que vous avez des informations sur la personne qui pourrait remplacer le directeur de la prison qui a démissionné et à quelle échéance ?
Alors non, là actuellement c'est on a une déléguée territoriale hein, qui chapeaute un peu les prisons de la Réunion et de Mayotte. Donc je l'ai eu au téléphone ce matin, c'est elle qui pour l'instant fait l'intérim dans l'attente, bon le poste il est ouvert à hein, une mobilité et d'avoir un candidat pour reprendre l'établissement. Donc quoi qu'il arrive, il y a une intérim qui est assurée.
Après la mutinerie dont vous nous avez parlé, puisqu'on parle des décisions qui sont prises, le ministère de la Justice avait envoyé 11 agents en renfort. Est-ce que ça a permis de soulager un peu le personnel de la prison ?
Non, pas forcément, parce que ça n'a pas baissé le taux de la surpopulation pénale. C'est-à-dire que demain, ça va être peut-être éphémère, donc c'est la crainte. Donc c'est toujours agréable, on va dire, entre guillemets, d'avoir un renfort pour avoir des mesures sécuritaires plus affûtées hein, vis-à-vis de l'ouverture des cellules, d'être à plusieurs. Hein, c'est vraiment pour renverser aussi le rapport de force. Mais ça va durer combien de temps ? En fait, le problème, c'est la projection d'avenir pour les surveillants du centre pénitentiaire de Magicavo. Et je pense que même le directeur qui a démissionné, il a très bien dit dans son interview, en en disant c'est signal fort, on a besoin d'un autre établissement. Et lui-même, il le dit quand même, c'est quand une personne, une autorité hiérarchique, qu'on n'a aucune lueur d'espoir, on n'a pas de terrain, on n'a rien. Donc.
Il est prévu ce nouvel établissement, vous n'avez aucune information sur l'avancée du projet ?
Non, il n'y a rien. Alors, moi, j'ai encore siégé, il n'y a pas longtemps sur une réunion, on dit qu'il y avait deux terrains proposés, sauf que les deux terrains ne répondent pas aux normes, ils sont inondables, ou ceci, cela. Mais on ne sent pas vraiment une réelle volonté d'aller vite aussi sur ce projet. Il faut avancer. Donc, je pense qu'il y a des mesures à prendre. La préfecture, l'État doit s'en emparer. Au moment, je ne sais pas, il y a peut-être des terrains à réquisitionner, parce que vous savez très bien, une prison, tout le monde en veut une. Par contre, si je prends des mairies, personne ne veut donner de terrain. Parce que c'est ça aussi le problème, hein, c'est le problème du foncier. Donc, actuellement, ça tourne un peu en rond. Pendant ce temps, on flirte avec le drame. Et dans beaucoup de prisons d'outre-mer, ça serait pareil en Guyane, on est toujours dans l'attente.
Alexandre Vissou-Vanadin, secrétaire général régional du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA Justice, il était l'invité d'Anne Cantner dans RFI Midi. RFI Midi, vous le savez, c'est tous les jours à partir de 11h, temps universel. Mais pour l'heure, il est 22h16 en temps universel. Reportage France qui nous emmène à Bordeaux. C'est dans le sud-ouest à l'occasion de la 31e édition d'Octobre Rose. Un mois pour parler du cancer du sein et des initiatives en faveur de la prévention et du dépistage. Et il est une manière de combattre la maladie pour certains par l'humour. C'est la devise en tout cas que s'est donnée l'association bordelaise Jeunes et Roses qui s'adresse aux jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein. Elle a ainsi créé les ateliers Pouette Pouette pour sensibiliser à l'autopalpation mammaire et apprendre aux plus jeunes à savoir s'observer. Ce vendredi dernier, l'atelier avait lieu donc dans un quartier de Bordeaux. Reportage signé Laurence Théo.
Sur les mannequins juste ici, est-ce que vous remarquez des choses inhabituelles ?
Sur la table recouverte d'une nappe rose, des bustes en silicone dont les seins comportent des anomalies. Sur les conseils des animatrices, les jeunes participantes s'essaient à la palpation.
C'est bien avec les trois doigts, mais déjà, est-ce que tu as senti quelque chose sur ce sein ?
Oui, on a senti une boule dure au niveau du mamelon.
C'est ça. Alors quand les boules, elles sont aussi dures comme ça, comme un caillou, ça c'est une tumeur. C'est pas mobile, ça ne bouge pas. Là où le kyste, vu que c'est du liquide, ça va bouger, ça va être mobile.
Écoulement anormal du mamelon, grosseur, veine apparente, autant de signes pour détecter une éventuelle tumeur que Jennifer ne soupçonnait pas.
J'ai appris pas mal de choses, notamment en fait au niveau de la peau. On voit en fait quand la femme elle a peut-être un début, que la peau peut être modifiée, qu'elle peut ressembler à une peau d'orange, que peut avoir une sorte d'inflammation. Et ça, je ne le savais pas, en fait.
Est-ce que vous aviez l'habitude de palper vos seins ?
Non, pas du tout. Mais comme a été dit, en fait, c'est bien de le faire tous les mois, une semaine après les règles.
Vous le ferez ?
Je le ferai, à partir du mois prochain.
Chaque année en France, 10% des cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes de moins de 40 ans. Maëlys a participé à l'atelier. Elle pensait que seules les femmes âgées pouvaient être atteintes d'un cancer du sein.
Parce qu'on a tendance à entendre, enfin, à se dire cancer, c'est plus quand on est plus âgé.
Ans,
oui.
60 ans.
Exactement, oui. Alors quand on est jeune, on est plus insouciant.
Visage doux et regard bleu, Mélanie Courtier est la cofondatrice de l'association Jeunes et Roses. Elle a aujourd'hui 40 ans, mais elle a été touchée par la maladie à l'âge de 31 ans, alors qu'elle attendait son deuxième enfant. Elle revient sur la singularité du cancer du sein quand on est une jeune femme.
On a le même problème que toutes les femmes qui ont un cancer du sein. On a toutes le même problème et on n'a pas les mêmes problématiques dans notre quotidien. On a des jeunes femmes de notre asso qui sont étudiantes, qui découvrent qu'elles ont un cancer du sein pendant leurs études. Donc ça compromet leurs études, ça compromet le début de leur vie professionnelle. Celles qui sont déjà mamans et qui doivent en parler à des enfants en bas âge ou gérer un bébé qui fait passer nuit, aller en chimio le lendemain, ce genre de choses. Et il y a celles qui n'ont pas encore d'enfants et qui voient leur désir de grossesse, leur projet parental, qui sont soit mis entre parenthèses, soit carrément, malheureusement, des fois balayés par l'arrivée du cancer dans leur vie.
Ce qui est frappant chez les jeunes femmes de l'association Jeunes et Roses, c'est leur combativité, leur énergie et leur humour. Elles souhaitent que leur expérience du cancer du sein serve aux autres dans un esprit de sororité.
Combattre le cancer du sein avec humour, voilà le pari de l'association Jeunes et Roses. Voilà le reportage France de Laurence Théo, minuit 19, ici à Paris.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une, la difficile équation du parc national de Guadeloupe, à savoir protéger les coraux et attirer les touristes. Le lancement du festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes en Guyane et puis les arts polynésiens à l'honneur à Paris. On évoque cela avec vous, Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonsoir. En Martinique, nouvelle nuit de tension à Fort-de-France et au Lamentin. Des véhicules ont été incendiés, des magasins dégradés dans plusieurs quartiers. Et durant ces affrontements, 11 policiers auraient été blessés, selon les autorités. Et Rodrigue Petitot, figure du mouvement contre la vie chère en Martinique, a lui aussi été blessé. Protéger les coraux tout en attirant les touristes, une difficile équation aux îles Pigeon, situées au cœur du parc national de Guadeloupe. En cause des eaux chaudes, des activités nautiques, et pour sauver ce joyau, le parc national de la Guadeloupe a organisé une réunion publique hier. Peggy Robert.
Le parc a dénombré jusqu'à 500 plongeurs en sortie le même jour au plus fort de la fréquentation des îlets pigeons. 500 plongeurs auxquels s'ajoutent des kayakistes, des plongeurs en PMT, palme, masque, tuba, les touristes des bateaux à fond de verre, autant d'activités nautiques qui ont un impact sur l'environnement, sans parler des problèmes d'assainissement de l'eau des riverains de Malendur et des rejets des plaisanciers. Toujours est-il que ces pressions exercées sur le milieu s'additionnent les unes aux autres et mène à la dégradation des récifs coralliens et à la baisse de quantité de poissons. C'est ce que constatent les agents du parc sur le terrain. Club de plongée, club de kayak, plaisanciers, mais aussi hébergeurs, restaurateurs, riverains, tous ont donc intérêt à réduire ces impacts pour préserver la biodiversité des îlets pigeons. Le parc national de la Guadeloupe a choisi de ne pas décider seul et d'inviter les acteurs locaux à repenser avec lui les mesures de gestion et faire en sorte que les efforts soient portés par tous. Un an de concertation pour aboutir en octobre 2025 à une restitution de ses travaux et un projet de gestion durable et partagée des îles Pigeons.
En Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est le début de la 6e édition du FIFAC, le Festival International du Film Documentaire Amazonie-Caraïbes. 37 films en compétition et un focus sur Haïti. Un avant-goût du festival avec Emma Chevalier de Guyane la première.
Le festival met cette année en avant Haïti et le Suriname avec en toile de fond leur histoire coloniale. Il en est du film « Les âmes bossales » de François Perlier. Il dresse le portrait de plusieurs résistants politiques et spirituels dans le contexte social explosif de l'île.
Elle ressemble à quoi la Guyane pour vous ?
La Guyane ne sera pas en reste avec le film « Coup et voix » de Maxime Jean-Baptiste. L'histoire d'un jeune garçon qui revient au pays et ravive la mémoire de son oncle défunt, mort dans des conditions tragiques. Avec Varadou, Nicolas Argilet suit plusieurs orpailleurs clandestins dans leur quête d'une vie meilleure. À vous donc de choisir parmi cette riche programmation. 37 films seront projetés, du court au long métrage. 13 pays seront représentés.
Le FIFAC, c'est du 8 au 12 octobre 2024 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Et on va se quitter avec cet éclairage sur l'art polynésien. Ils sont 4 artistes à avoir posé leurs valises à Paris. Ils profitent de leur résidence atelier pour s'ouvrir à d'autres horizons. Véronique Nizan.
Accrochée avec du scotch sur les murs du studio atelier, les premières peintures de Moana van der Maessen évoquent son attachement à l'océan, un univers qui tranche avec le paysage urbain qui l'entoure. Mais l'artiste peintre originaire de Faa savoure son immersion au cœur de la ville d'art.
Peut-être perfectionner mon art, apprendre de nouvelles choses également, parce que on a la chance ici en métropole d'avoir accès à pas mal de musées qui nous permettent d'approfondir nos connaissances et nos techniques.
Ruita Teohiri, jeune artiste de l'île de Toubouaï dans l'archipel des Australes, est lui aussi en plein travail sur de grandes toiles de coton. Passé le choc culturel des premières semaines, il s'intéresse aux formations.
Je savais que c'était une aventure de découverte, que j'allais venir pour pouvoir voir tout ce que j'avais jamais vu avant. Et même quelques ateliers pour pouvoir être formé, comment créer un portfolio, comment s'adresser oralement pour pouvoir se présenter.
Dans les étages de la Cité des Arts, Anthony Gaillard, venu de Tahiti, peaufine lui une toile à partir de vieilles photos. Touche à tout en matière d'art, il multiplie les rencontres.
Chacun a un parcours un peu différent et atypique, donc c'est bien de voir comment ça fonctionne à l'extérieur, dans différents pays, que ce soit en Afrique ou dans les pays de l'Est. C'est très très intéressant.
Mathilde Zampieri, la plus jeune du groupe qui a grandi sur l'île de Raiatea, a fini l'écriture d'un scénario.
C'est sûr que Paris, c'est une ville pour la culture, c'est un truc de fou, surtout à cette période de l'année. Donc c'est vraiment un endroit qui est super propice à même élargir sa culture personnelle.
La jeune cinéaste croise les doigts pour décrocher son premier budget. Quant aux 3 artistes peintres, leur travail sera exposé en novembre à la délégation de la Polynésie française à Paris.
Et les 4 artistes polynésiens resteront à Paris jusqu'au 26 novembre. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé. Très bonne soirée à vous aussi.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Le conseil santé de 24 heures en France sur RFI pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient précisément sur l'infectiologie tropicale, Caroline Paris.
Priorité santé à Marseille, où se sont tenues la semaine dernière les rencontres francophones de médecine de santé tropicale, 29e journée du Pharo, qui comme chaque année permettent d'évoquer l'actualité des infections, des épidémies, avec des acteurs de santé, Mpox en Afrique centrale, choléra, lutte contre le paludisme, des prises en charge des populations en situation de crise ou de conflit. Et parmi nos invités, le professeur Denis Malvy, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux, pour évoquer notamment l'actuelle flambée de virus de Marburg au Rwanda, infection pour laquelle une prise en charge en urgence s'impose.
Plus vite un patient confirmé le sera, mieux il sera pris en charge au moment de la phase de gastroentérite fébrile très très fatigante, dans un contexte où on pourra repérer chez lui des signes d'évolution vers les formes sévères qui surviennent dans 20% des cas, avec des défaillances d'organes, les hémorragies. Et là, il faut être vraiment dans un contexte de soins adapté pour recevoir des soins de support, de prévention immédiate de la défaillance d'organes, de prise en charge de ces derniers, parce que jusqu'à présent, même si nous avons des traitements spécifiques, ce sont les soins de support qui sauvent.
Localisation au Rwanda, on a dit de cette flambée de Marburg. Est-ce qu'on a des éléments d'explication? L'Africa CDC, le Centre africain de recherche sur les épidémies, indique que ce sont surtout des personnels de santé qui sont touchés.
C'est toujours ainsi dans les fièvres hémorragiques virales, dans les viroses menaçantes, avec une propension épidémique et un pronostic réservé. On ne répétera jamais assez que nous avons besoin de protéger nos personnels de santé. Nous sommes tous précieux.
Priorité santé à Marseille, table ronde avec des infectiologues, chercheurs pour parler de l'actualité en médecine tropicale à l'occasion des actualités du Pharo. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Rendez-vous est donc pris et tout est bien noté. Merci beaucoup Caroline Paré. Et c'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française. Aux manettes ce soir, Fabrice Viollet, à la rédaction en chef, Loïc Bussière. Merci à vous deux. Le retour de l'actualité, c'est dans un peu plus de 3 minutes, Afrique Soir, avec Zéphirin Quadio. Mais en attendant, comme tous les soirs à cette heure-ci, minuit 27 tout pile ici à Paris, on fait un petit détour à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones se regagne. 126 points, revient à 42 080. L'indice du Nasdaq rebondit de 259 points. Il termine à 18 183. Les raisons de l'envolée des cours du pétrole sont toujours là. Le risque de guerre ouverte entre l'Iran et Israël, plus élevé que jamais. Pour autant, des prises de bénéfices aujourd'hui ont déclenché un plongeon de plus de 4% du cours du baril américain de pétrole. Le Light Sweet Crude se retrouve à un peu moins de 74 $. La déception du marché devant les mesures de relance de l'économie en Chine joue un rôle dans cette correction du pétrole. Du reste, d'autres matières premières sont nettement dans le rouge aujourd'hui. Le cuivre, l'argent, le platine et même l'or, après avoir initialement limité les dégâts, cèdent au mouvement pour rendre un peu plus d'1% et terminer à 2 614 $ l'once. Dans ce contexte, bien sûr, les valeurs pétrolières et minières sont dans le rouge, Valero Energy, Marathon Oil, Freeport-McMoRan notamment. Le marché obligataire est calme en attendant la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre aux États-Unis. On table sur un gain de seulement 0,1% qui rassurerait la Banque centrale américaine dans son intention de poursuivre la baisse de son taux directeur. L'euro s'apprécie à peine et revient à 1,0976 $. Aujourd'hui, l'indice Dow Jones avance de 0,3% et, toujours dopé par Nvidia, mais aussi par d'autres grands noms des semi-conducteurs, notamment Intel, le Nasdaq s'offre 1,5%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La RDC va-t-elle réintégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Kinshasa a fait acte de candidature, mais une partie de la société civile et de l'opposition affirme que le pays ne remplit pas les conditions démocratiques pour siéger dans cette instance. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.